Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama qui, avant d'être un podcast, est une émission de radio. Et une émission de radio qui tente eh bien, chaque semaine de vous faire écouter le cinéma dans le poste. Et on va tenter de le faire encore une fois aujourd'hui avec plusieurs films. Et notamment, nous allons parler d'un film qui parle des serial killers. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test sur eh bien, les serial killers parce que le cinéma en regorge. Et c'est toi, Guillaume, qui va parler de ce film québécois.
Oui, c'est Les Chambres Rouges de Pascal Plante.
Et tu parleras aussi d'un film de monstre.
Bah, d'un autre type de monstre, là, vraiment très gros. C'est Godzilla Minus One et sa ressortie.
Et toi, Manu, c'est un film allemand.
Stella, une femme allemande, en fait, hein, sur une juive qui a dénoncé les siens.
Et puis on va traverser les Alpes pour aller en Italie avec toi, Sophia.
Exactement, avec une autre dénonciation dans Prima Donna.
Et moi, je vous parlerai d'un film qui m'a marqué, mais dans le mauvais sens du terme, c'est Comme un prince, qui est une comédie française. Mais nous allons débuter avec un film qui était sorti le 7 décembre et enlevé aussi sec. Hein, Godzilla Minus One fait son retour en salle en 2024 et il a le droit maintenant à une flopée d'écran. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle. C'était ton coup de cœur 2023.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Oui, c'était clairement parmi mon top 3 hein, de ce que j'avais vu l'année dernière. Mais je suis très content de voir qu'il ressort parce que Godzilla Minus One, c'est le casse de l'année, hein, voire de ces 20 dernières années, et qui triomphe aussi à cause de ça, parce qu'il en remonte à toute l'industrie du cinéma. Alors pour moi, de 15 millions de dollars, le réalisateur Takashi Yamakazi a su faire mieux que tous les blockbusters américains budgétés à 200 ou 250 millions de dollars grâce à une histoire très forte et une manière très intelligente d'utiliser les effets spéciaux qui sont du coup tout le temps spectaculaires. Alors ça pourrait paraître mesquin d'attaquer des films sur leur budget, mais c'est aussi au-delà de la qualité globale du film sur lequel nous allons revenir, ce qui fait que Godzilla Minus One est un triomphe un peu partout dans le monde. Donc pour le budget chaussette dans Marvel, le film de monstres de Yamakazi a su réintroduire quelque chose qui avait progressivement disparu chez les spectateurs contemporains. Bon, si on met bien sûr de côté les derniers efforts des toujours exceptionnels Spielberg et Cameron, c'est la magie unique de l'expérience d'un grand moment en salle et le sens du spectacle qui est redevenu enfin intense et impressionnant. Et si en plus vous vous rappelez que ce film signe les 70 ans de Godzilla et que la Toho arrive encore à produire des films originaux alors qu'on s'approche tranquillement du 40e film mettant en scène la bestiole, c'est à finir de foutre par terre un Hollywood totalement nécrosé. La Seconde Guerre mondiale se termine avec perte et fracas pour le Japon. Donc Koichi revient au pays la tête basse. Manque de peau, il n'a non seulement plus personne pour l'accueillir dans ce qui est devenu un champ de ruines, mais en plus il est conspué par tous car il est montré du doigt comme étant responsable de la défaite du pays. Il faut dire que Koichi est un kamikaze qui a refusé au dernier moment de se suicider, ayant un sursaut de vie à la dernière minute et considérant que son sacrifice ne servait à rien. Donc Koichi est également le témoin et quasi seul survivant de la manifestation d'une étrange créature Godzilla, venu de la mer et qui détruit tout sur son passage. Alors qu'il tente de recoller les morceaux de sa vie aussi brisés que les infrastructures de son pays, la menace monstrueuse revient et l'occasion va être donnée à Koichi de redresser la tête. Alors cette fois-ci, il devra défendre une jeune femme, Noriko, et une orpheline qu'il a pris sous son aile, symbole de sa tentative désespérée de rédemption et de faire valoir son droit à la vie en soutenant celle d'autrui. Alors on le voit, Godzilla Minus One met en scène l'humain avant le monstre et perpétuellement perpétue ainsi le bon déroulement d'un film de monstre idéal. La créature redevient une métaphore de ce que traverse le protagoniste principal, permettant ici de faire une radiographie assez impitoyable de l'esprit japonais et de la place de l'individu au sein du pays et en temps de guerre, et permet de sonder la part sombre des nombreuses questions ayant trait à la nature humaine. Alors le chemin de croix de Koichi est donc avant toute chose particulièrement émouvant, et l'absence de tout cynisme et une foi absolue en un premier degré, tissée jusqu'à l'ultime séquence, permettent à Takashi Yamakazi de maintenir une tension maximale jusqu'à une conclusion extrêmement satisfaisante. Alors ici, nulle réinvention de Godzilla, le roi des kaijus, contrairement au chef-d'œuvre Shin Godzilla, sorti en 2016 et toujours honteusement inédit chez nous, ne symbolise pas tant la destruction nucléaire mais un mal plus profond. Là où il rejoint Shin Godzilla, qui se passait à notre époque et qui, lui, réinterprétait le traumatisme de Fukushima, c'est qu'il met bien évidemment en scène les travers de la société japonaise et la faillite de ses élites qui peinent à maintenir la posture de leur pays et leur culture. Et son identité propre est confirmée par le titre lui-même, Minus One, voulant dire que cet opus se passe avant le classique de 1954. Godzilla. Entre ce tour de force et les propositions toujours plus spectaculaires du cinéma indien qui, depuis le succès mondial de RRR en 2022, a désormais une audience véritablement mondiale et attentive, le cinéma divertissement américain a décidément beaucoup, beaucoup de soucis à se faire s'il veut garder la tête haute. Surtout que Godzilla Minus One ne cache même pas l'une de ses influences, qui est celle des Dents de la Mer. Clin d'œil à un âge d'or d'Hollywood désormais disparu, particulièrement visible lors d'une traque maritime intense. Bref, 70 ans et toutes ses dents, Godzilla est vraiment le roi des monstres.
Et ce film, donc en ressortie, est à voir sur un peu plus de 250 écrans, donc ça veut dire qu'il passe sûrement tout près de chez vous.
Et en IMAX, ça vaut vraiment le détour.
Alors, si en plus vous avez un écran IMAX, elle est belle la vie. Un film inspiré de la vie, justement, de Stella Goldschlag, une juive qui va rêver d'une carrière de chanteuse de jazz, mais qui va aider à traquer des juifs à Berlin. C'est Stella, une vie allemande.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Auteur de l'embarrassant et raté, vous n'aurez pas ma haine, un drame sur les événements tragiques qui ont eu lieu donc, au Bataclan en 2015, avec Pierre de Longchamp, l'Allemand Kilian Redhoff, de retour dans son pays natal, revient sur une page sombre de l'histoire sous le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors il s'en sort nettement mieux, sans doute plus en phase avec le sujet, ayant le recul nécessaire pour traiter objectivement le parcours édifiant et terrifiant de Stella, une jeune femme juive sous l'occupation dans le Berlin des années 40. Alors présentée d'emblée comme pleine de vie, joyeuse et déterminée, alors opportuniste mais pas antipathique, Stella rêve d'une carrière de chanteuse de jazz, alors vivant dans une bulle, dans le déni de la menace qui pèse sur elle, malgré toutes les précautions à son égard de ses parents et de son entourage. Mais les arrestations augmentent, les déportations vers Auschwitz menacent ses proches. Contrainte de se cacher avec ses parents en 1944, elle finit par se faire arrêter, puis torturer. Alors pour survivre, elle va commettre l'irréparable, dénoncer ses connaissances juives, ses amis, avec qui elle faisait d'ailleurs de la musique en toute insouciance. Alors mieux que survivre, elle goûtera même, alors au prix fort, à une vie, alors on ne va pas dire de luxe, mais plutôt aisée, jouissant de certains plaisirs de l'existence. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Ich bin überall weg. Kriegen wir alle raus. Und wenn ich dich in meinen Koffer stopfe?
Dein Vater ist im Knast. Dafür kannst du die Todesstrafe kriegen.
Ce drame historique, inspiré de la vie de Stella Goldschlag, est le portrait ambigu et troublant d'une belle juive au physique d'Arien, qui fut l'une des plus importantes collaboratrices de la Gestapo. La première partie montre Stella persécutée par les lois antisémites, la plaçant du côté des victimes avant de devenir elle-même une sorte de bourreau, une traîtresse constamment animée par la culpabilité. Alors écrit avec une certaine finesse, préservant l'ambivalence du personnage, Stella, une femme allemande, n'est pas une peinture à charge d'une figure effrayante dénonçant les siens. La part la plus réussie du film tient à son personnage central et donc à l'interprétation habitée de Paula Beer, tantôt fiévreuse, tantôt glaçante, qui vampirise l'écran de la première à la dernière image. Elle éclipse tous les protagonistes et antagonistes qui l'entourent, finalement pas des plus intéressants. Ces personnages traversent l'écran dans l'indifférence, présent pour leur fonction militaire, nazi, juif, musicien, et non pour ce qu'ils sont réellement. Ce manque d'épaisseur de ces personnages qui gravitent autour de Stella, sacrifiés à l'autel du récit, pointe les faiblesses d'un scénario mécanique. Alors le film manque de chair pour captiver totalement, jamais à la hauteur de son actrice. Il est par ailleurs assez curieux que l'on craigne pour la vie de Stella, alors que par exemple, le départ de ses parents dans les camps de concentration ne provoque pas de sentiment d'indignation et très peu d'émotion. Alors ce manque d'empathie révèle
davantage la maladresse du film qu'à propos, on va dire, idéologiquement douteux. Ce positionnement allié à une écriture un peu lâche est heureusement compensé par une mise en scène dynamique, inspirée, laissant sur le bas-côté l'éternel pseudo-classicisme sur fond de reconstitution historique rutilante. Alors tourner caméra à l'épaule, style, dans un style rentre-dedans, hein, dans un scope écrasant, le film est porté par un montage très énergique, des figures de style assez impressionnantes comme les zooms intrusifs et des mouvements de caméra insufflant un sentiment de vitesse. Cette stylisation, opposée à l'académisme de rigueur, parvient à pallier un manque de moyens évidents avec panache et intelligence. Alors elle épouse aussi le caractère bouillonnant, complexe et pas vraiment aimable de Stella, cette figure fascinante et exécrable, marquée par la honte et la culpabilité. Alors si le film a du mal à démarrer, enrobé de séquences un peu inutiles dans sa première heure, notamment toutes les frasques amoureuses de Stella, il reste le témoignage indispensable d'une époque, un devoir de mémoire, d'autant plus important que ressurgit dans l'Europe des réflexes un peu identitaires à travers une montée de l'antisémitisme, mais aussi de l'extrême droite.
Stella, une vie allemande, est en salle depuis le 17 janvier. Nous passons du régime nazi au serial killer, avec deux femmes obsédées par les forfaits d'un tueur en série qui vont tout faire pour permettre de confondre le démon de Rosemont. Nous parlons des chambres rouges et ce sera l'occasion de jouer un blind test.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
À peine 35 ans et déjà un troisième long métrage. C'est le parcours intense de Pascal Plante qui ne manque justement pas d'intensité dans le choix du sujet de son dernier film, Les Chambres Rouges. Alors le Canadien, originaire du Québec, continue ses portraits d'une jeunesse qui se cherche, entre affirmation et dérive totale, recherche des codes et sorties de routes culturelles ou humaines, mais nous amène cette fois-ci de l'autre côté de l'arc-en-ciel, ou plutôt du web. Alors exit les influenceurs aussi beaux que stupides, ici nous plongeons dans ce que le dark web, le fameux internet interdit, a peut-être enfanté de plus laid, de plus terrible, les fameuses chambres rouges qui donnent leur nom au titre du film.
Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmé pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct dans ce qu'on appelle des chambres rouges.
Tu l'entends de voir si on entend ça?
Non, on l'entend jamais.
Comment tu sais ça?
Les Chambres Rouges, c'est donc la matérialisation d'un lieu qui relève du mythe, mais qui, dans la diégèse du film de Plante, existe bel et bien. Alors une Chambre Rouge, c'est là où se tourne un snuff movie, un terme qui désigne des films légendaires supposément vrais, où les sévices commis sur des victimes, bien évidemment pas consentantes, sont réels. Il existerait un public qui irait jusqu'à payer très cher pour voir ce genre de spectacle. Alors si ce qui est encore, heureusement, un fantasme pour tout amateur de films d'horreur n'en est justement pas à son premier film sur le sujet, les Chambres Rouges décident d'aller à l'inverse du crap souvent convoqué lorsque le sujet motive la mise en place d'une telle histoire. Alors on est ici très loin d'un hostel d'Eliros, par exemple, qui s'en inspirait beaucoup, même si le brillant second volet mettait en parallèle le destin des futures victimes et celui des futurs bourreaux, permettant de développer de façon intelligente les thématiques philosophiques sous-jacentes du sujet qui n'étaient même pas prises en compte dans le premier opus. Alors qu'on se le dise, le film de Pascal Plante ne sombre à aucun moment dans l'ultra-violence et n'a aucun débordement graphique. Nous pouvons voir tout au plus l'écran de fin d'un snuff movie, mais tout ce que l'on peut y distinguer, c'est du sang partout sur les murs. Alors son intérêt, non, n'est pas dans une dérive bisseuse, mais de coller à la peau de ces deux protagonistes principales, deux jeunes femmes qui sont attirées par le mal et qui vont se rendre compte que la célèbre phrase de Nietzsche, quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même, et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse, l'abysse le scrute à son tour, eh bien que cette phrase est vraie. Alors tel un virus, l'horreur de la situation montrée sans phare dans le snuff movie contamine des individus qui se pensaient au-dessus de la sensibilité des simples mortels et va les confronter avec leurs propres limites.
Vous n'étiez pas au procès, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez rien.
Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre?
Fais-moi confiance, faut pas que tu les vois, ok, c'est tout.
C'est qu'il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi?
Ici, pas de méchant qui transpire la perversion comme dans 8 mm de Joël Schumacher. Il y a juste deux jeunes femmes qui vont se rendre compte que corrompre son âme en voulant s'affronter trop près du diable a un prix et qu'il est très lourd. Le diable, c'est un présumé tueur que tout accuse et dont on va suivre son procès. Enfin plutôt, ce sont nos deux héroïnes, Kelly, Anne et Clémentine, qui vont le suivre. L'homme arrêté est accusé d'avoir séquestré, torturé et tué d'une façon absolument abominable trois mineurs, d'avoir filmé l'intégralité des sévices infligés et de l'avoir posté sur le dark web. Alors que le procès avance, Clémentine, la plus jeune et la plus idéaliste, va se rendre compte que Kellyanne, plus mature et qui l'a en quelque sorte prise sous son aile, a une autre forme d'attirance pour ce procès. Et au fil du temps, les masques vont tomber et ce qu'il y a derrière va quelque peu égratigner le vernis de la civilisation qui fait que l'habit ne fait pas le moine, mais qu'il le pare. La mise en scène frappe très fort dès son introduction pour ne plus nous lâcher. Pascal Plante a parfaitement compris comment épouser les deux logiques de son scénario, à savoir le lent déroulé d'un procès et la lente dégringolade dans les méandres de la folie de deux personnages qui glissent doucement mais sûrement dans l'abîme nietzschéen. Il va opter pour de longs plans séquences, mais débarrassé de toute franfreluche, faussement virtuose comme le cinéma d'action moderne l'a si mal digéré. On est ici beaucoup plus dans une optique kubrickienne, autre architecte intéressé par la naissance et la nature du mal qui fascine et corrompt les âmes. On pense au long travelling d'Eyes Wide Shut et les chambres rouges a le bonheur de faire à chaque fois évoluer le sujet du plan séquence qui reste du coup toujours alerte et riche de sens. On peut reprocher au film une conclusion trop sobre par rapport aux émotions convoquées durant ces deux premiers actes, mais rien que pour eux, le film est une expérience étouffante et extrêmement maîtrisée qui mérite amplement le détour.
Ce film, Les Chambres Rouges, est en salle depuis le 17 janvier, nous donne l'occasion de jouer un blind test autour des films mettant en scène des tueurs en série. Alors on ne parlera ni de Seven, ni du Silence des Agneaux, ni de C'est arrivé près de chez vous, ni même de La Cité de la Peur. Le but du jeu, 5 extraits, il faut deviner les titres, premier extrait.
Bon, en supposant que les gants soient les siens, il tire sur le taxi et ensuite il les enlève.
Donc c'est pas son empreinte. Peut-être, peut-être pas, c'est pas l'important. L'important, c'est la première attaque.
David Faraday et Betty Jensen.
Ils meurent tous les deux. À partir de là, il n'arrive plus à tuer que les filles.
Pas faute d'essayer.
Pas faute d'essayer.
Majo survit, Ferrin meurt. Arnell survit, Shepard meurt. On a l'impression qu'il est tellement obsédé par les femmes qu'il oublie d'achever les hommes.
Et ce sont tous des couples, tous à des endroits isolés.
Paul Stein, non.
Exactement.
Le taxi célibataire de Washington et Cherry ne colle pas.
Il ne colle pas.
Alors, pourquoi Zodiac le tue ?
Il a interrompu la série.
Et c'est trouvé, Guillaume.
Alors, c'est effectivement pas Seven, mais c'est Zodiac, même David Fincher.
Oui, film sorti en 2007. Zodiac est le nom que s'est donné un insaisissable tueur en série qui a sévi à la fin des années 60 dans la région de San Francisco. Prodigue en messages cryptés, il semait des indices comme autant de cailloux blancs et prenait un malin plaisir à narguer la presse et la police. Et il s'attribua une trentaine d'assassinats, un peu plus d'un million d'entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test.
Si chaque fois tu tires dans la tête de quelqu'un avec le même calibre, tu signes ton crime, c'est un peu comme une empreinte. Mais si tu varies les plaisirs en étranglant, en poignardant, en dépeçant, tu brouilles les pistes et la police ne sait plus à quel sens jouer. Elle pense qu'elle a affaire à plusieurs individus. La police, ce qu'elle aime, c'est qu'on lui facilite la tâche, elle veut une méthode. On appelle ça motus operandi. C'est du latin. Mais t'as jamais fait de latin, toi.
Parce que j'en ai à foutre.
Voilà, donc ça vous
c'est bizarre
dialogue.
Le doublage, hein, il est pas.
C'est un bizarre. Oui, 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 je confirme. Alors,
c'est pas Henri Portrait d'un serial killer.
Si, c'est ça.
Le doublage pourri me disait quelque chose en fait, parce que je l'ai vu à l'époque, en cassette en fait, et j'avais pas trop aimé à cause de ce doublage, alors que le film est très bon.
Et de la VHS qui grésille. John McNaughton, film sorti en 86, hanté par son enfance martyr, Henri tue. Alors c'est la seule manière pour lui de se libérer de ses démons. Il commence par sa mère prostituée, et puis après, il enchaîne ensuite au gré des rencontres en fait qu'il fait. Ce film s'inspire de l'histoire du tueur en série Henry Lee Lucas, film interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en France, à tel point que je n'ai même pas trouvé les chiffres du box-office. Voilà, je ne sais pas combien il a fait d'entrées. Troisième extrait de ce blind test.
Je ne cherche pas à ce que l'on me comprenne. Mes actes sont le fruit d'un état d'esprit différent, engendré par de mûres réflexions. Je ne suis pas un démon, je suis parfaitement conscient et je contrôle totalement chacun de mes gestes. Je n'ignore pas que mes actes semblent monstrueux pour un public installé dans la léthargie. L'hypocrisie, l'égoïsme, l'indifférence, la cruauté forment un amalgame caractérisant l'homme. Et je hais l'homme. Cette haine a transformé un être sensible et calme en un monstre implacable, ivre de vengeance et de sang.
Alors, ça n'a pas été trouvé dans les studios. Peut-être que vous avez trouvé, cher auditeur, en regardant la filmographie de Guillaume Canet, puisque c'était lui que...
Ah, c'est la prochaine fois, je viserai le cœur.
Oui, bravo. Film de Cédric Anger, sorti en 2014. Entre 78 et 79, les habitants de Loisse sont dans l'angoisse d'un maniaque qui tue plusieurs autostoppeuses et qui échappe à la police. Celui qu'on surnomme alors le tueur de Loisse est un jeune gendarme timide qui va enquêter sur ses propres meurtres jusqu'à perdre le contrôle de la situation. 490 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait de ce blind test consacré au serial killer.
Et qu'est-ce qu'il cherchait avec vous ? Marc, à quoi voulait-il arriver avec vous ?
Il m'observait pendant que je grandissais. Il voulait un dossier complet sur la croissance d'un enfant. Complet, oui. Avec tous les détails. Comme si c'était possible. Et il a essayé d'y parvenir en passant son temps à me filmer. Il n'arrêtait pas. J'ai jamais connu un moment de tranquillité, d'intimité pendant toute mon enfance.
Et cette lumière dans les yeux? Et cette chose?
En fait, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier la réaction du système nerveux devant la peur.
La peur?
Et c'est trouvé, même si c'était de la VF.
C'est le chef-d'œuvre absolu, le voyeur de Michael Powell.
Oui, film sorti en 1960. Mark Lewis est un jeune homme énigmatique et solitaire, passionné d'images jusqu'à l'obsession. Alors, il est opérateur caméra dans un studio de cinéma, mais il fait aussi des extras comme photographe de charme dans la boutique d'un marchand de journaux. Et alors, il dit tourner un documentaire, mais s'emploie en réalité à une démarche bien plus morbide. Il traque la peur de la mort dans le visage des jeunes femmes par un procédé que je vais cacher. Voilà, vous pourrez regarder ce film. Absolument impressionnant, le voyeur de Michael Powell qui a réuni 159 000 spectateurs en France lors de sa sortie. Dernier extrait de ce blind test.
Et vous faisiez donc bien peur les femmes quand elles n'étaient pas mortes?
Qu'est-ce que j'y peux? Quand le céleri est bien disposé, faut appliquer sa loi.
Quelle loi? Il n'y a pas de loi, Bouvier, il n'y a qu'une loi. C'est de réfréner ses instincts quand ils sont mauvais.
Vos paroles sont bien belles, mais celles de la nature causent souvent plus haut, coûte que coûte. Allez, j'en goûte.
Mais nous en avons tous des tentations. Nous y résistons. Sinon, que deviendrait la société?
Mais je me fous de votre société! Moi, je relève de Dieu. J'ai fait œuvre de justice. C'est la France qui est coupable.
Alors, j'ai coupé hein, dans le dialogue qui est beaucoup plus long. C'était Philippe Noiret et Michel Galabru.
C'était pour Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier.
Oui, film sorti en 1976. L'histoire est inspirée de la vie du tueur en série Joseph Vacher à la fin du 19e siècle. Il a réuni 913 000 spectateurs en France lors de sa sortie. Ainsi s'achève ce blind test donc consacré au serial killer, puisque nous parlions des Chambres rouges, film québécois en salle depuis le 17 janvier. Le combat d'une femme violée, décidément, qui refuse le mariage forcé dans l'Italie des années 60, nous parlons de Prima Donna.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Sorti en salle en Italie en mars dernier, ce long métrage, le premier de la réalisatrice Marta Savina, arrive enfin sur nos écrans français. Prima Donna, si on s'y essaye avec l'accent, la première femme. Bon, comme c'est un titre traduit pour la distribution française, je m'abstiendrai pour votre confort auditif à tous de rouler les R. Dans ce film, c'est l'actrice Claudia Guzmano, étoile naissante du cinéma italien, qui l'incarne, cette première femme, à travers le personnage de Lia Crimi, qui n'est autre que le pendant fictionnel d'un personnage historique réel, Franca Viola, elle qui s'est fait connaître du grand public italien dans le cadre d'une affaire très médiatisée au milieu des années 60. La réalisatrice avait déjà fait appel à cette même actrice en 2017 pour incarner ce même personnage et commencer à développer son adaptation filmique de cette histoire, puisqu'elle avait réalisé Viola Franca, un court-métrage de 15 minutes, comme un travail préparatoire pour cette version longue qu'est Prima Donna. Il ne s'agit pas d'un film historique à proprement parler, mais plutôt d'une histoire de lutte et d'émancipation, inspirée de faits réels, situés, mais à visée universelle. Nous voilà donc dans la Sicile des années 60. Notre protagoniste principal, Lia Crimi, fille de paysan, se refuse à son prétendant, Lorenzo Musico, issu, lui, d'une riche famille de notaires du village, en lien avec la mafia. Lorenzo, ce n'est pas le genre de garçon qui a l'habitude qu'on lui dise non. Alors avec ses copains complices, il enlève Lia, la séquestre et la viole pour se l'approprier. Mais contrairement à ce que voudrait la morale traditionnelle ancestrale, la jeune fille n'accepte pas le mariage réparateur proposé par les Musico. Un mariage pourtant destiné à sauver notre héroïne et sa famille de la honte d'avoir perdu sa virginité hors mariage. Lia dit non, s'oppose à la tradition et traîne en justice son ravisseur et agresseur. Elle est la première femme à avoir le courage de le faire. Alors l'histoire de ce personnage est intimement liée au droit italien et notamment sicilien, au droit des femmes plus particulièrement, et à leur point d'intersection avec la tradition séculaire patriarcale, avec l'intime et les questions de religion, d'honneur, de justice. C'est donc à un point névralgique particulièrement tendu que s'intéresse cette œuvre. Et cette tension, on peut déplorer de ne pas vraiment la retrouver dans la première moitié du film, qui manque un peu de panache. Heureusement, dès le début du procès, une audience ouverte au public, il gagne en intensité et on est tenu en haleine par son déroulement et par le contraste permanent entre les deux clans, qui sont polarisés, certes, mais pas complètement blanc ou noir. On a quand même d'un côté Lia et sa famille, avec des acteurs assez puissants dans leur interprétation de la dignité face à l'humiliation. On est sensible à la souffrance inhérente à leur quête de vérité et de justice qui les consume, les dépouille de tout et qui socialement les marginalise complètement. De l'autre côté, ils répondent à la toute-puissance des mafieux avec leur solide réseau, les tactiques d'intimidation et de manipulation orchestrées en toute impunité sous les yeux des autorités, totalement impuissantes et dépassées. Un premier film qui reste en somme efficace, bien que sobre, et c'est peut-être ce que tu lui reproches, Manu, toi qui as largement préféré l'adaptation antérieure qui a été faite de cette même affaire en 1970.
Alors, sobre, je dirais plutôt académique en fin de compte. Et puis, alors, juste deux points. Seul contre la mafia, oui, je le trouve très supérieur. Déjà parce qu'il y a un côté western, en fait. C'est à la fois un brûlot féministe et puis c'est aussi un spectacle qui est admirablement mis en scène. Et l'autre point quand même qui est à... C'est que là, l'actrice a quand même pas loin de 38 ans. Elle vit chez ses parents et ça se voit qu'elle n'a pas 16 ans. Alors que dans l'affaire originale, elle a 16 ans. Et le fait que Damiano Damiani ait pris une actrice qui avait donc à l'époque Ornella Muti 15 ans, ça donne quelque chose de beaucoup plus fort. Surtout que la mafia est quand même bien nommée. Hein. Là, elle n'est jamais nommée. Hein. On est censé savoir, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est nommé dans le scénario, dans le synopsis, mais pas dans le film. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film beaucoup, beaucoup plus fort. C'est plus spectaculaire. On n'est pas loin du western, mais je préfère largement cette version qui est diffusée donc, actuellement en VOD sur Arte TV. Voilà.
Et ben voilà, l'occasion de profiter des deux films. Prima Donna est en salle depuis le 17 janvier. Un boxeur est condamné à effectuer des tiges et ne plus approcher la boxe, mais il n'en tient pas compte.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
On est très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable.
Bon, les gars!
Les films de boxe, il y en a en pagaille, on pense à Rocky évidemment, et puis à Creed maintenant, mais aussi Million Dollar Baby ou Raging Bull. Ce sont la plupart du temps des films provenant des studios américains, ils ont davantage de facilité à filmer les nions. Nous, en France, quand on filme la boxe, eh bien on le fait sur le ton de la comédie, avec Comme un prince du comédien Ali Mariar. Alors c'est important de préciser que c'est un comédien qui l'a réalisé, et qu'il s'agit en plus de son premier film. C'est une comédie qui a pu s'offrir deux noms, d'un côté Ahmed Silla, et de l'autre Jonathan Cohen. Écoutons les deux.
Le mec, il a porté plainte, on fait quoi?
Moi j'ai rien fait moi.
C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché.
De quoi vous me parlez, la gosse?
La gosse.
Mais moi c'est bagarre moi.
Alors c'est important un casting, hein. Quand on n'a pas de scénario qui tienne vraiment la route, c'est tout le problème de Comme un prince, qui est un film alors ultra balisé. On voit Souleymane, 27 ans, champion de boxe, en pleine préparation des JO avec l'équipe de France, qui fait une grosse connerie. Il sort les poings en discothèque en faisant le mur. Il se fait alors exclure de l'équipe de France et est condamné à faire 400 heures de travaux d'intérêt général au château de Chambord.
Les tiges, c'est pas les vacances.
Souleymane, il va être avec nous pendant quelques mois là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà.
Bah nous on a rien fait, on est là gros.
Alors là-bas on sent que le château est trop grand pour lui, mais petit à petit Souleymane va parvenir à créer des relations qui vont lui faire espérer des jours meilleurs. Et il vaut mieux car Souleymane aide son père qui n'a pas le sou pour payer le loyer. Alors qu'il n'a pas le droit de faire de la boxe, il va embarquer une jeune délinquante dans le circuit des matchs de boxe. Voilà le fil rouge du film. Alors va-t-il parvenir à faire exister cette fille qui au premier abord a l'air paumée? Et lui-même va-t-il grandir? Alors déjà on coche la boxe version féminine pour se raccrocher à l'air du temps. À cela il faut ajouter une deuxième intrigue qui est-elle sentimentale. Souleymane va rencontrer celle qui organise les animations du château. Alors il y a un gouffre entre eux. Mais on imagine bien qu'à force de bien nous montrer les différences entre ces deux personnages, eh bien, ils vont finir par s'unir. Du balisage, vous ai-je dit, il n'y a rien à se mettre sous la dent, le scénario est convenu, les personnages à peine dessinés, même l'univers de la boxe paraît peu crédible, et il y a des séquences qui moi, m'ont révulsé de bêtises, comme celle où on fait des recommandations à Souleymane, qui doit remplacer au pied levé le comédien jouant un chevalier lors d'une reconstitution.
Tu rentres, tu cours, bouclier, et tu tombes.
Je rentre, je cours, bouclier, je tombe.
Alors j'ai presque envie de vous demander de répéter cette phrase, tu rentres, tu te fais. Donc c'est facile à comprendre puisqu'il le répète, et eh bien le gag c'est que non, il va tout faire de travers, il va être surpris que l'autre attaque et lui mettre un coup d'épée avec l'air complètement outré. Personne n'a tapé sur l'épaule du réalisateur pour lui dire que ça ne pouvait plus se tourner ce genre de séquence maintenant. Autre cas pratique, cette séquence.
Voilà ce que je te propose moi, je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne. Hein.
Je veux 10 000 euros.
Je pensais plus à 15 euros moi.
Ok.
Voilà. Seul point positif, les comédiens, si l'on veut, alors comme la jeune boxeuse Mallory Vanek, actrice de L'Épire, nommée au César du meilleur espoir féminin en 2023, et qu'on verra dans le prochain film de Gilles Lelouch.
Ça c'est quoi, c'est pour faire peur aux sangliers?
Bah non, c'est au cas où il y a des pédophiles, tu vois. Je leur frappe les couilles, après je leur enfonce dans le cul.
D'accord.
Alors, elle tient un bâton, je le précise. En bref, Comme un prince est à peine un film sur la boxe et à peine une comédie.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, vous aurez chacun un film.
Et moi, ce sera le film posthume de William Friedkin, c'est L'affaire de la mutinerie Kane.
Moi, ce sera May December de Todd Haynes.
Et toi, un film très attendu, Sophia.
Et pour moi, Pauvre créature, le dernier Lanthimos.
À la semaine prochaine.